fantôme. Grammaire fantôme. Grammaire fantôme. Grammaire fantôme. Une émission par Nadia Lichtig.
Nous allons rencontrer aujourd'hui Pierre Walter, bassoniste, chef d'orchestre et professeur au Conservatoire de Chartres. Il nous partagera sa passion pour le basson, son approche de l'enseignement et son travail en tant que chef d'orchestre. L'entretien sera suivi d'un enregistrement, la symphonie numéro 4 en sol majeur de Gustav Mahler, dirigée par Pierre Walter, le 25 août 2018 à la Philharmonie de Sofia, en Bulgarie. Bonjour Pierre Walter, ravi de vous accueillir aujourd'hui dans l'émission Grammaire Fantôme.
Bonjour.
Alors, on s'est rencontrés à Flaine, on est d'ailleurs tous les deux à l'instant à Flaine. On est entouré, enfin, sur une terrasse et un ascenseur marche à côté de nous, donc il y aura des bruits d'ambiance. Et ici, vous enseignez le basson et la direction d'orchestre.
Tout à fait.
Alors, j'avais une première question. Comment vous êtes venu à la musique? Quel est votre parcours?
Alors, ça a été, je crois, une succession de coups de cœur. La direction d'orchestre, ça m'a attiré très tôt. En fait, en voyant un jour un chef d'orchestre dirigé à la télé. Et ça m'avait impressionné de voir le résultat, le son que cet homme arrivait à modeler avec ses gestes. Et je crois que ça m'a donné tout de suite envie de pratiquer la direction d'orchestre. Et puis le basson, c'est un peu le hasard d'une rencontre. Quand j'ai commencé à étudier la musique au Conservatoire de Mulhouse, j'ai fait un peu le tour de différentes classes pour choisir mon instrument. Et je crois qu'il y a eu un véritable coup de cœur pour le basson, et puis aussi un déclic avec le professeur de basson, M. Dominique de Belvallée, à ce moment-là, au Conservatoire de Mulhouse.
Lorsque vous dites que vous avez entendu, enfin vu pour la première fois un chef d'orchestre à la télévision, c'était qui et c'était quel morceau?
Alors je vais vous faire sourire parce que c'était pas un orchestre, enfin c'était en fait un film dans un film comique. Et donc le film, je ne saurais plus vous dire quel film, hein. C'était un film qu'on nous avait projeté à l'école pour une après-midi cinéma de fin de trimestre. Et donc il s'agissait d'un film comique où vraiment le côté relation du geste du chef et de l'orchestre était évidemment caricaturé, poussé à l'extrême.
Vous étiez encore assez jeune à ce moment-là.
J'avais 5 ans.
5 ans. Enfin, à quel moment vous avez pu exprimer cette envie de devenir chef d'orchestre?
Alors, je crois qu'après ça c'est venu aussi du fait que quand j'ai commencé à m'intéresser vraiment à la musique, à écouter vraiment du répertoire et à ouvrir les livres sur la musique, j'ai vu que les catalogues des compositeurs étaient riches d'œuvres qu'on entendait rarement, que finalement les programmes que je pouvais entendre à la radio reprenaient un peu toujours quand même les mêmes tubes, les mêmes grands chefs-d'œuvre. Je crois que ce qui m'a fait réfléchir, c'est surtout de voir le catalogue de Verdi. J'écoutais, enfin, mes parents étaient mélomanes, donc il y avait toujours de la musique à la maison. Et j'ai assez vite, moi-même, apprécié et écouté de l'opéra. Et donc j'ai découvert assez rapidement les grands opéras de Verdi, Rigoletto, La Traviata, Nabucco. Mais j'avais vu que dans un livre de l'histoire de la musique, il y avait 26 opéras de Verdi. Et certains, on entendait toujours les mêmes. Et je me suis dit aussi que finalement, d'être chef d'orchestre, c'était la possibilité pour moi d'aller diriger des œuvres qu'on n'entendait pas, d'aller rechercher ces œuvres un peu oubliées ou qui mériteraient simplement d'être découvertes. Et ça, c'était aux alentours de 7-8 ans. Donc après, je suis allé tanner le directeur du Conservatoire de Mulhouse pour qu'il me prenne en classe de direction. Alors évidemment, au début, on m'a dit que j'étais trop jeune, qu'il fallait attendre, qu'il fallait un certain bagage. Et puis dès que j'ai pu, j'ai intégré la classe de direction d'orchestre. Alors non pas au conservatoire de Mulhouse, parce qu'entre temps le directeur était parti et la classe avait fermé avec son départ, mais au conservatoire de Colmar, donc dans la classe de Gene Méget.
On vous a pris un classe de chef d'orchestre à 7-8 ans?
Non, ça c'était... On m'a fait attendre jusqu'à ce que j'ai 18 ans.
Ah, quand même, d'accord. On a vu hier, ici à Flaine, un groupe, enfin pas hier, c'était il y a quelques jours, un groupe de... Un petit orchestre que vous avez mis en place pour faire une masterclass pour des très jeunes, très jeunes élèves. Donc il y a une fille de 12 ans qui est enseignée par vous. Donc ça aurait pu vous aurez, mais c'est pas habituel visiblement.
En tout cas, ça ne l'était pas quand j'étais moi-même élève. Je pense que effectivement, la direction d'orchestre, on peut commencer finalement assez tôt. Mmh. Alors évidemment, ça nécessite d'être capable de lire dans les différentes clés des différents instruments. Ça nécessite d'avoir une certaine conscience harmonique, conscience d'ensemble de la pièce. Mais je pense que sur des pièces assez simples, effectivement, on peut les aborder assez tôt sans avoir absolument accompli tout le cursus théorique qui sera bien sûr à compléter par la suite. Mais finalement, un instrument, on accepte d'être débutant, il faut aussi accepter qu'un chef soit débutant et qu'il commence par faire ses gammes sur du répertoire très simple. Un enfant, un jeune pianiste, on ne lui fait pas jouer tout de suite les grandes sonates de Beethoven ou Schubert, mais un chef d'orchestre, je pense que c'est pareil, il peut diriger des choses très simples. Si on part sur des symphonies classiques, finalement l'écriture est celle d'un quatuor à cordes, à quatre voix, avec une orchestration légèrement étoffée.
D'accord. Donc on est dans un... Oui, on est donc... pour revenir à vous, donc à 18 ans, avec un jeune chef d'orchestre qui entre donc à Colmar dans la classe de
Gene Méget, la classe de direction d'orchestre.
Et
2 ans après, je suis rentré au CNSM de Paris en basson, et alors pas tout de suite en direction. Là, j'ai fait un crochet en direction par le conservatoire de Saint-Maur, dans la classe de Jean-Pierre Ballon, donc l'ancien directeur du conservatoire de Mulhouse, avec qui j'étais toujours resté en contact. Et puis je suis rentré au CNSM en direction 4 ans plus tard, dans la classe de Claire Levaché et François-Xavier Roth. Et ensuite, mon parcours de chef d'orchestre a été constitué de différents stages, alors notamment l'Académie Spazio Musica d'Orvieto, où j'ai travaillé la direction lyrique auprès d'Aldo Faldi. Les Wiener Meisterkurse, donc à Vienne, en Autriche, auprès de Salvador Masconde. Et puis ensuite, une rencontre qui a été assez déterminante aussi dans mon parcours, c'est celle de Dejan Savic, le chef et directeur de l'Opéra de Belgrade, qui lui m'a vraiment formé, développé sur la direction d'opéra.
Vous êtes resté combien de temps à Belgrade?
Au Belgrade, j'ai revu Dejan Savic plusieurs fois le temps de stage, de masterclass. Et puis c'est quelqu'un avec qui je suis toujours en contact.
Vous parlez anglais ensemble?
On parle plein de langues ensemble, parce que l'anglais évidemment, mais aussi l'allemand, l'italien, le français, ça dépend en fait du contexte dans lequel on se trouve. Et lui comme moi parlons plusieurs langues, donc il n'y a aucune barrière linguistique entre nous.
D'accord, pas encore le serbe.
Pas encore le serbe. Et je n'ai jamais eu l'occasion de le voir à Belgrade à domicile. On s'est toujours rencontrés dans des cadres extérieurs à Belgrade.
Bon, ça viendra sûrement. Ouais.
Bon, je pense que ça viendra tôt ou tard.
Donc, alors, vous êtes entré en basson, d'abord au CNSM, et vous jouez aujourd'hui encore du basson aussi.
Je suis toujours bassoniste. Ouais. Je cumule les deux activités, les deux compétences. Je pense que c'est d'abord fondamental pour un chef d'orchestre de connaître l'orchestre de l'intérieur. Je dirais que le basson est peut-être l'un des instruments qui se prête le mieux à la connaissance des différents enjeux qui sont ceux du chef d'orchestre. Alors pour moi, revenir très rapidement sur mon parcours de basson, donc je suis rentré au CNSM en 1999 dans la classe de Gilles Bérodin, j'ai obtenu mon prix 4 ans plus tard. En 2001, j'ai eu le poste de basson solo à l'Orchestre Padoue, que j'occupe toujours aujourd'hui. Et en 2003, j'ai eu le poste de basson à la musique des gardiens de la paix. Là, j'y suis resté 5 ans avant de prendre moi-même la direction de cette formation lorsque le chef d'orchestre qui m'avait recruté, Philippe Ferraud, a démissionné. Je suis resté 3 ans dans cette formation. Après, les aléas politiques ont fait que je me suis tourné vers d'autres horizons. Voilà.
Aujourd'hui, quel rôle vous donnez au basson au sein de l'orchestre ?
Alors déjà, sur le rôle du basson au sein de l'orchestre, bon, il est multiple. Donc, du fait notamment de la très grande étendue de l'instrument, puisque le basson recouvre 3 octaves et une quinte, presque 4 octaves, voilà, avec une utilisation très... On commence à voir apparaître, voilà, les compositeurs utilisent de plus en plus le registre suraigu. Bon, on va dire qu'il y a quand même 3 octaves et une quinte de registres vraiment standard. Ils vont être répartis entre le 3e, 4e basson et le basson solo, qui ne vont pas évoluer dans le même registre. Finalement, un poste de second, de 3e, de 4e basson aura vraiment un rôle, la plupart du temps, de basse, de soutien de l'orchestre. Le premier basson va évoluer entre ce rôle de basse qu'il a dans certaines circonstances, mais aussi il peut être un soliste. Voilà, je pense par exemple au solo du boléro de Ravel, qui est dans le registre suraigu, le début du sax du printemps, qui sont dans un registre qui est celui du hautbois ou de la clarinette, pratiquement. Donc un instrument qui se prête aussi à un rôle central, un rôle, on va dire, de ténor ou d'alto dans certaines conditions. Donc c'est vraiment un instrument qui est partagé entre plusieurs fonctions. Et puis je dirais que pour le chef d'orchestre, c'est un instrument qui fait prendre conscience de nombreux enjeux. Bon, d'abord par son rôle de basse et son rôle de fondamental, je pense qu'on est très sensibilisé aussi à tout ce qui se passe autour. Vous prenez une partie de basson, vous la jouez seul, c'est pas forcément très passionnant à jouer. Mais par contre, quand vous vous retrouvez dans l'ensemble, on a vraiment du plaisir à partager, à se mettre, je dirais, à apporter notre pierre à l'édifice et à venir soutenir tout le groupe. Par là même, on va certainement développer plus de conscience harmonique que dans certains autres instruments, ou en tout cas, ça se prête mieux à cette prise de conscience. Je dirais que c'est un instrument avant qui est quand même assez éloigné physiquement du chef d'orchestre, donc où on prend conscience de la nécessaire distance quand on passe de l'autre côté en tant que chef, de la nécessaire distance et de la nécessaire clarté du geste, d'un geste qui doit être compréhensible à une certaine distance. Je ne dirais pas de nom, mais on voit certains chefs qui dirigent des fois juste pour le premier rang. C'est flagrant chez les étudiants qui commencent avec des gestes souvent très petits, qui sont perceptibles des premiers rangs, mais qui deviennent assez flous du fond de l'orchestre. Le chef doit être visible non seulement des cordes au premier rang, mais du timbalier au dernier rang, voire dans le cadre d'une production lyrique, il doit être visible par les chanteurs qui sont situés au fond du plateau, à plusieurs dizaines de mètres.
Donc ça... Ce qui est intéressant aussi, donc il y a d'une part l'aspect théâtral en fait, dont vous parlez à l'instant, en fait, en tant que chef d'orchestre, finalement, c'est la danse un peu pour les personnes.
C'est un repère. C'est un repère pour tout le monde. Le chef, c'est le primus inter pares, c'est celui qui guide tout le monde, qui va rassembler toutes ces énergies musicales et qui va les faire, qui va les rendre cohérentes, qui va leur donner une direction qui va être la même pour tout le monde.
Qu'est-ce qui est plus épuisant, jouer à l'orchestre le basson ou diriger un orchestre ?
Alors physiquement, ça sera de diriger de toute façon.
Oui, quand même.
Et nerveusement aussi, ce sera de diriger parce que le chef d'orchestre ne peut lâcher à aucun moment. Un instrumentiste d'orchestre, quel que soit le poste qu'il occupe, on a toujours des moments, je dirais, où la tension va pouvoir se relâcher un petit peu quand on a des mesures à compter. Bon, évidemment, il faut rester attentif, il faut rester conscient du déroulement de la pièce et évidemment être prêt à revenir quand on sera à nouveau sollicité. Mais on a quand même ces quelques moments où on va en profiter, musicien, par exemple le bassoniste, pour retremper son hanche, pour rectifier éventuellement l'ouverture de l'hanche, pour essuyer un peu d'humidité sur l'instrument, pour simplement des fois tourner une page. Bon, tous ces petits moments où on se relâche un petit peu du jeu, on les a en tant qu'instrumentiste, on ne les a évidemment plus en tant que chef, puisque le chef de la première à la dernière note doit être absolument présent. Sinon, si vous perdez le contrôle, vous imaginez un pilote qui lâche son volant. Je ne vous fais pas de dessin, on voit très vite que l'accident se profile assez facilement.
Et quelle pièce vous voudriez dans l'absolu diriger ?
Oh, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Je dirais qu'un de mes coups de cœur, c'est le Fréchus de Weber. Un opéra qui est absolument fondamental pour moi parce qu'il tient en germe tout le romantisme allemand, tout le répertoire allemand du 19e. Donc quand on pense opéra allemand au 19e siècle, on pense évidemment à Wagner. Et je crois que quand on écoute Weber, en fait, tout Wagner est déjà en germe dans cet ouvrage.
Intéressant. Et parlons un peu de cette... Enfin, justement, donc, comparons les différentes traditions orchestrales. Quand vous comparez, qu'est-ce que vous voyez? Quelles sont les particularités de l'orchestre français?
Alors, je pense qu'il y a une culture du musicien qui est pas forcément la même, et en tout cas en France, qui est très axée sur le répertoire soliste. Si je prends par exemple ne serait-ce que les modalités de recrutement d'un instrumentiste d'orchestre en France, vous allez être recruté, on va vous écouter sur des pièces essentiellement solistes, un mouvement de concerto, un mouvement de sonate. Et finalement, vous allez pas forcément être recruté sur ce qui va être le cœur de votre métier. Jouer une pièce en soliste, quand on occupe un poste de violon solo, un poste de flûte solo, pourquoi pas, encore que il y a toute une partie du métier de musicien qui est complètement occulté. Si je pense à un poste de 3e ou de 4e basson, ou de 3e clarinette, ou 3e trombone, la chose la plus dure en orchestre va peut-être être justement ces moments où on ne joue pas. C'est 40, 50, 60 mesures à compter d'un coup avant de placer une attaque dans le grave qui doit être absolument en face, qui doit être absolument à l'heure, précise, mais avec un instrument sur lequel qui a pu légèrement refroidir et qui ne répond pas forcément à, disons, dans les meilleures conditions. Ça, c'est pas du tout évalué dans les concours, et je trouve que même au niveau des conservatoires, alors les choses ont... Je dirais, il semble évoluer dans le bon sens de ce que j'en vois, mais de ce que j'ai connu moi-même, c'est un côté pratique qui était un petit peu ignoré, un petit peu délaissé.
Donc en France, on forme des solistes.
On forme des solistes avant tout, qui vont finir par se retrouver musiciens d'orchestre. Et la culture de l'orchestre va être très différente d'un conservatoire à un autre en fonction de la politique du directeur. Vous avez des conservatoires, ceux que moi j'ai connus en tant qu'élève et celui où j'enseigne aujourd'hui, le conservatoire de Chartres, où l'orchestre reste au cœur de la pratique. Les élèves ont accès à différents ensembles depuis les premiers niveaux jusqu'au niveau supérieur, et où cette pratique se fait de manière régulière, de manière hebdomadaire. Vous avez des conservatoires qui ont opté aussi pour des sessions d'orchestre, c'est-à-dire que les élèves vont avoir 4-5 jours assez intense d'orchestre, mais une fois, deux fois dans l'année scolaire, et donc non pas de confrontation régulière avec cette pratique. Pour moi, je trouve que l'idéal, ce serait d'avoir un peu des deux, c'est-à-dire une pratique hebdomadaire régulière qui conserve ce rapport avec l'orchestre, et de temps en temps une session un peu plus intensive qui prépare quand même à ce qu'est la réalité d'un poste d'orchestre, d'un musicien d'orchestre.
Et quels sont vos projets futurs?
Alors, je dirais dans l'immédiat, je souhaite monter une masterclass de direction d'orchestre en partenariat avec l'Opéra de Constanța en Roumanie sur le répertoire classique, donc de Haydn jusqu'à Schubert. Parce que quand je regarde un peu le paysage des offres de stages de direction, on trouve des stages pour les chefs débutants, vraiment tout débutants. Et puis après, on trouve des masterclass pour chefs confirmés qui vont aborder le grand répertoire, les œuvres de Richard Strauss, de Debussy, de Ravel. Et finalement, quand mes élèves de direction me demandent de leur conseiller un stage, il y a un vide, je dirais, sur ce qui serait l'équivalent d'un deuxième cycle. Ce moment où on commence à avoir déjà un petit peu de pratique, mais où on n'a pas encore le bagage technique nécessaire pour aborder Richard Strauss, pour aborder Debussy. Et je pense que de travailler sur le répertoire classique, c'est d'abord fondamental parce que c'est le cœur du répertoire. Et ça, c'est un énorme avantage d'abord de ne faire appel à des formations qui ne sont pas encore très fournies en nombre de musiciens. Donc on va pouvoir aussi, en tant que jeune chef, monter assez facilement un concert pour donner une symphonie de Mozart, une symphonie de Haydn. On trouvera plus facilement l'effectif que pour donner un poème symphonique de Richard Strauss. Et puis ça reste un répertoire qui est assez facilement contrôlable. On peut vraiment encore entendre vraiment tout ce qui se passe sans avoir beaucoup d'expérience. Et donc les jeunes chefs peuvent déjà vraiment travailler sur vraiment faire du travail de fond, du travail de précision, sur quelque chose qui reste harmoniquement, qui reste au niveau de l'écriture relativement simple.
Alors, ces masterclass, ils verront le jour à quel moment?
Alors là, c'est courant de l'année à venir, mais la date n'est pas encore fixée.
Donc ça, on pourra regarder sur votre site?
Ce sera annoncé sur mon site.
D'accord. Merci beaucoup.
On se retrouve la semaine prochaine avec notre nouvelle invitée.
Grammaire fantôme. Grammaire fantôme. Grammaire fantôme. Une émission Panadialistique.